Un nouveau journal dans moins de 20 minutes, un coup de fil à Kiev, on appelle Emmanuel Chaz. Après la proposition par Vladimir Poutine de négociations directes jeudi prochain, un premier mouvement pas suffisant, dit Emmanuel Macron. Donald Trump dit lui vouloir continuer de travailler avec la Russie et l'Ukraine. À 6h, temps universel, on part aussi à Chiclayo, la ville du Pérou, où le pape Léon XIV était autrefois évêque. Notre correspondant Martin Chabal a pris la route et nous emmène sur place. Mais tout de suite, les sports. Bonjour Baptiste Leduc.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
En football, une sacrée semaine pour le tout nouveau léopard congolais Aaron Wan-Bissaka.
Le joueur de West Ham va retrouver Old Trafford où il a porté le maillot de Manchester United pendant 5 saisons. Match sans enjeu pour deux équipes déçues de leur saison mais assurées de se maintenir. Il y aura des émotions sans doute en revanche pour Aaron Wan-Bissaka qui en a connu d'autres il y a quelques jours. Le joueur a donc reçu sa première convocation avec la République démocratique du Congo, Victor Missistrano.
Les léopards plutôt que les trois lions. À 27 ans, Aaron Wan-Bissaka a donc choisi la tanière de RDC, où il a évolué chez les moins de 17 ans, avant de porter le maillot de l'Angleterre jusqu'en catégorie espoir. Né en banlieue londonienne et formé dans le pays, le défenseur d'origine congolaise était éligible pour ces deux nations, et il a donc été convaincu par le sélectionneur Sébastien De Sabre de venir renforcer les léopards. Arrivé des Red Devils à West Ham l'été dernier pour environ 15 millions d'euros, l'arrière droit affiche une solide expérience, plus de 200 matchs en Première Ligue. Il n'a manqué qu'une rencontre de championnat cette saison et Aaron Wan-Bissaka n'est pas le seul nouveau de cette liste. Comme lui, Afimiko Pululu, également éligible avec l'Angola, a opté pour la RDC. L'attaquant du club polonais de Jagiellonia est le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence. Des renforts de choix donc pour une sélection pleine d'ambition à la lutte pour une première qualification en Coupe du Monde depuis 1974.
Les premières apparitions d'Aaron Wan-Bissaka et de Pululu sous le maillot de la RDC, ce sera peut-être lors des deux prochains matchs amicaux prévus en France à Orléans, les 5 et 8 juin contre le Mali et Madagascar.
En France, on le sait depuis quelques jours, le Paris Football Club évoluera en Ligue 1 la saison prochaine et les joueurs de la capitale ont bien fêté ça hier.
Ils ont dit adieu à leur enceinte de Charletti avec une victoire 2-0 contre Ajaccio pour la dernière journée de Ligue 2. Les Parisiens ont pu célébrer la montée en première division avec leurs supporters. Parmi les cadre de ce surprenant Paris FC, il y a un Sénégalais qui a réalisé une très belle saison, c'est Moustapha Mbo. Écoutez-le parler de ses ambitions au micro de Saliou Diouf.
C'est content d'être en Ligue 1, ça fait plaisir parce qu'on a travaillé toute l'année pour être en Ligue 1 et là c'est fait, je suis très content. On verra de toute façon comment ça va se passer et je suis très content d'être dans l'équipe type de la Ligue 2. J'ai bossé depuis des années pour arriver à ça, mais cela ne veut pas dire que je vais m'arrêter là-bas parce que je compte aller chercher loin, franchement. Aller chercher l'équipe type de Ligue 1, pourquoi pas. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver. On verra bien comment ça va se passer. À Ligue 1.
Nouveau venu en Ligue 1, voilà un prochain candidat au prix Marc-Vivien Fauré, qui sait ?
Qui sait ? Et puis de la boxe pour refermer ce journal et le boxeur franco-sénégalais Souleymane Sissoko s'est imposé hier à Malabo en Guinée équatoriale.
Une victoire unanime mais qui a mis du temps à se dessiner pour Sissoko, mis sous pression par son adversaire, le lituanien Egidijus Kavalioskas en début de combat. Le natif de Dakar a dû adapter rapidement son plan pour renverser la vapeur. Il y est parvenu et dans la chaude ambiance de Malabo, sa victoire fait de lui le nouveau challenger dans la catégorie des poids welter de la WBC, une des fédérations de boxe. Ce combat contre Kavalioskas était une sorte de demi-finale mondiale. Sissoko devrait donc prochainement avoir sa chance pour le titre qui est actuellement détenu par l'Américain Mario Barrios.
Merci Baptiste Leduc, à tout à l'heure. Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse, les hebdomadaires et les journaux du dimanche avec vous. Et à la une, le Premier ministre François Bayrou face à une échéance cruciale.
François Bayrou au pied du mur de l'affaire Betaram, titre le Parisien dimanche. Le Premier ministre a préparé en cercle restreint un rendez-vous crucial, son audition mercredi par la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires. L'enjeu est considérable, remarque le journal. Betaram, c'est cette école privée catholique qui fait face à de nombreuses plaintes et accusations pour violences et agressions sexuelles à partir des années 80 et 90. Le Parisien dimanche rappelle le contexte. François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 97 et parents d'élèves scolarisés dans cet établissement où son épouse enseignait le catéchisme. Il aura d'autant moins le droit à l'erreur qu'il s'exprimera sous serment. Le Nouvel Obs, qui consacre sa une à l'affaire Bétaram et au Premier ministre, dit la même chose, mais plus crûment. Ce sera pour François Bayrou, nous dit-on, l'occasion de livrer ses vérités. Espérons qu'il ait la décence de la saisir alors qu'il s'est jusqu'ici enferré dans le déni et le mensonge. Le 11 février à l'Assemblée nationale, rappelle le Parisien dimanche, François Bayrou a d'abord nié en bloc, assurant n'être au courant de rien avant de changer de version par la suite.
Le Nouvel Obs, de son côté, a décidé d'élargir le sujet.
Pour l'hebdomadaire, l'affaire Bétaram est une bombe à fragmentation. Elle nous oblige, nous dit-on, à regarder en face le caractère endémique des violences faites aux enfants dans les familles, mais pas seulement, car l'école n'est pas toujours un sanctuaire pour nos enfants. Et de fait, assène le Nouvel Obs, l'enseignement catholique est au cœur des dernières révélations. Pratiques déviantes, faiblesse des contrôles de l'État, voire protection de l'institution par des élites qui en sont souvent issues. L'hebdomadaire parle donc de bombe à fragmentation et précise encore que depuis février, de nouveaux cas d'établissements déviants apparaissent chaque semaine, des plaintes s'accumulent. Pas moins de 200 pour Bétaram et des affaires tues pendant des décennies font la une des journaux.
Dans la presse hebdomadaire également cette semaine, Catherine a un long reportage du Point sur la République démocratique du Congo.
Et plus précisément dans le Nord Kivu, où les envoyés spéciaux du magazine Guillaume Perrier et Vivien Latour ont rencontré des creuseurs des mines de Roubaïa. Sommairement équipés, nous dit-on, ils descendent en escalier armés de pioches. Ils font ensuite remonter le sable et le minerai en se passant des sacs de main en main. Les visages sont juvéniles. Les éboulements sont leur hantise. Un travail harassant payé 5 dollars par jour. La région est riche en minerais, notamment en coltan, et elle est depuis longtemps la cible de nombreuses convoitises qui se concrétisent par des affrontements armés. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, rappelle le Point, accuse le M23 de chercher à s'approprier les ressources du Kivu. 150 tonnes de coltan seraient selon lui détournées vers le Rwanda chaque mois. Kigali dément. À Goma, le Point a rencontré Corneille Nanga, le chef de l'alliance Fleuve Congo, coalition formée autour du M23. Il incarne le nouveau pouvoir, explique le Point, qui décrit ainsi la situation. Goma reprend vie, le port sur le lac Kivu retrouve son agitation vespérale, mais les combats de la fin janvier ont laissé des traces. Les violences ont fait entre 3000 et 8000 morts, selon les estimations sujettes à débat. L'inquiétude principale pour suit le Point concerne l'économie. La paralysie du système bancaire empêche les habitants de Goma de pouvoir disposer de leur salaire. Au marché central, l'activité tourne au ralenti. Certains habitants se plaignent d'être rackettés par des membres de l'armée gouvernementale en civil. La guerre n'est pas terminée, dit l'un d'entre eux.
Tout autre sujet à présent, Catherine, le Living Apart Together.
Autrement dit, vivre ensemble, mais séparément. C'est Courrier International qui nous parle de cette nouvelle tendance. Vivre en couple sous des toits séparés pour conserver son indépendance. Ces couples, nous dit-on, assurent que la distance entretient leur flamme. Une tendance observée notamment aux États-Unis. Courrier International cite ainsi le New York Post qui a rencontré Lorraine et Maurice, mariés et en couple depuis 5 ans. Chaque soir, ils s'endorment au même moment après avoir regardé une émission ou récité des passages de la Bible ensemble, sauf qu'ils ne sont pas dans la même chambre et qu'ils communiquent en réalité via FaceTime. Depuis quelque temps, ajoute le New York Post, ils vivent à 20 minutes l'un de l'autre et plutôt que d'avoir accès à l'autre 24 heures sur 24, le duo partage du temps de qualité pendant le week-end et à des moments choisis. Bref, une manière de s'engager tout en gardant sa liberté.
Merci Catherine Potet, à tout à l'heure.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et dans l'Afrique en marche, ce matin, un secteur en plein essor, celui du jeu vidéo. Alors qu'on estime qu'un gamer sur 10 dans le monde est africain, le marché du jeu africain se développe à toute vitesse. Il représentait l'an dernier 1,8 milliard de dollars avec une croissance 6 fois plus importante que la moyenne mondiale. Et avec des spécificités, la plupart des Africains qui jouent le font sur leur smartphone. L'enjeu, c'est aussi de développer des jeux qui font écho aux cultures locales. Les studios de création de jeux africains se multiplient donc sur le continent. Et Frédéric Gara nous présente aujourd'hui l'un d'entre eux, la société sénégalaise Kaifo.
Si vous connaissez cette petite musique, eh bien c'est peut-être parce qu'un jour vous avez joué à Dakar Secret sur votre smartphone. Dakar Secret, comme des dizaines de jeux, c'est une conception de Kaifo, une société sénégalaise qui depuis 5 ans crée des jeux téléchargeables à destination du public africain. Casse-tête, jeux de course, football ou bien jeux éducatifs, des jeux qui présentent une unité, celle d'adopter un look et des codes africains. C'est ainsi, par exemple, que le Candy Crush de Kaifo fait évoluer non pas des bonbons dans des colonnes, mais des masques traditionnels. Tiernion Ndiaye, l'un des concepteurs de jeux chez Kaifo.
On était fan des jeux vidéo, donc on jouait, mais souvent on ne voyait pas des personnages africains au niveau des jeux. Donc c'était important pour nous de montrer une représentation des personnages africains au niveau des jeux vidéo. On a par exemple un jeu Détective Sera, où l'ensemble des lieux s'est inspiré des lieux emblématiques qu'on retrouve ici à Dakar, qui permet aussi de montrer notre culture à travers ce jeu-là.
Kaifo en Wolof, ça veut dire « viens jouer ». C'est l'idée de l'invitation de venir jouer à des jeux vidéo africains.
Julien Herbin, ex-Ubisoft, une major du jeu vidéo dans le monde, est le fondateur de Kaifo.
Le marché du jeu vidéo en Afrique est essentiellement présent sur le smartphone, avec 95% des joueurs qui jouent sur smartphone. La particularité de ces jeux, en fait, c'est qu'ils ne s'installent pas. C'est des jeux instantanés, donc il suffit d'aller sur notre site web et on peut y accéder directement. On compte un nombre de joueurs uniques mensuels. On cumule environ 100 000 joueurs sur nos 4 ou 5 jeux les plus populaires. Il y a évidemment des sociétés qui ont des millions, voire des dizaines de millions de joueurs mensuels hein, à l'échelle mondiale. Mais pour un petit studio africain qui débute, je trouve que c'est quand même assez intéressant comme chiffre. La croissance des marchés africains ne fait que grandir largement plus vite que les autres marchés au niveau mondial.
Pour répondre à ce marché grandissant, il faut des compétences. Or, les écoles spécifiques de conception de jeux vidéo sont rares en Afrique. Aussi, depuis un an et demi, un Sénégal Gaming Hub, un centre de jeux, a été mis en place par Kaifo et un autre studio de jeux vidéo, Maseka, en partenariat avec la délégation sénégalaise à l'entrepreneuriat et l'ambassade de France. Marie-Pierre Thiam est coordinatrice de cet incubateur à talents créatifs.
C'est l'idéal pour les jeunes qui sont incubés là-bas de pouvoir avoir cette formation en game design pour qu'ils puissent on peut comprendre ce que c'est que le game design. C'est beaucoup de domaines en fait qui s'allient pour pouvoir faire des jeux vidéo. On a des artistes en 2D, des artistes en 3D, il y a des animateurs 2D. On a même des sound designers, les gens qui s'occupent de faire les effets sonores, la musique du jeu et tout ça. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble en synergie pour arriver à créer des jeux.
Ce Sénégal Gaming Hub a été financé par l'ambassade de France à Dakar. Mathieu Bécu, attaché de coopération, innovation et économie numérique.
Si on imagine qu'à l'échelle mondiale, on a un marché du jeu vidéo qui représente 300 milliards d'euros environ et que 1% de ce marché est capté par le marché africain, il est important de pouvoir se dire qu'il y a un potentiel considérable avec une demande qui est exprimée, mais avec une capacité de répondre à cette demande avec la création de jeux vidéo sur des contenus africains qui sont extrêmement faibles aujourd'hui. Donc l'idée était de pouvoir développer un écosystème favorable sur le continent. Et ça, c'est une approche assez unique.
Au terme de 6 mois d'incubation, les apprentis concepteurs peuvent toucher, pour les projets les plus aboutis, une bourse afin de créer leur propre société de production de jeux vidéo et peut-être un jour, comme Kaifo, s'amuser à développer des jeux pour la jeunesse africaine.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche. Et bientôt 6h en temps universel sur la radio du monde. Avant le journal, un peu de musique et un artiste français originaire de Turquie. On le connaît pour ses collaborations en studio avec de nombreux artistes comme Nekfeu et Stromae pour ne citer qu'eux. Mais le voilà avec un projet solo, le mini-album Neva et le titre Ispahan dans la sélection du mois de RFI.
Bir gün özersin, bir gün kaçarsın. Ne verirsin?
s'appelle Selman Faris et son titre Ispahan est dans la sélection du mois de RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Le journal dans 30 secondes. À tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
C'est le 29 mai à Abidjan que sera désigné le prochain président de la BAD, la Banque africaine de développement, qui finance de nombreux projets en Afrique. Nous verrons quels sont les enjeux de ce scrutin hautement politique, les forces et les faiblesses des 5 candidats et candidates.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque ouest-africaine de développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.